Bienvenue dans cette 8e saison des Bonnes Choses, l'émission gourmande de France Culture qui marie saveurs et savoirs, qui active papilles et méninges autour d'un fait culturel majeur, l'alimentation. Les Bonnes Choses, c'est toujours 30 minutes pour parler de nos façons de manger, de nos bonnes et de nos mauvaises habitudes, des enjeux sociaux, sanitaires, économiques, écologiques, politiques, culturels, mais aussi intimes et collectifs de notre alimentation, des produits de nos régions, des cuisines du monde. 30 minutes pour faire le portrait d'artisans, de producteurs, de chef, le tout bien sûr aussi au féminin, pour entendre tous ceux et toutes celles qui nous nourrissent au quotidien et qui s'engagent pour que nous mangions bien tous les jours, surtout avec plaisir. Des nouveautés en cette rentrée dans l'équipe, bienvenue à Léa Varin et bienvenue à Jean-Christophe Francis et à l'antenne puisque j'ai la joie d'accueillir un jeune chef que tout le monde s'arrache mais qui a choisi France Culture et on en est très honoré et très heureux. Maurice Acco, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes le chef du restaurant étoilé Moussouké à Paris, animateur du magazine Cuisine Ouverte sur France 3, qui a repris hier soir. Vous rejoignez Les Bonnes Choses pour une chronique chaque dimanche à 12h25, intitulée Le Dialogue des Cuisines, pour laquelle vous aurez carte blanche. Carte blanche sur quel sujet ce midi ?
Ce midi, on va parler de l'omelette.
Pour commencer, c'est parfait. Et ça tombe très bien avec notre sujet qui est donc le partage, puisque pour inaugurer cette saison, cette arrivée et ce dialogue des cuisines, quoi de mieux que de partir à Marseille, où se tient la 8e édition d'un festival dont la raison d'être est le partage, et dont le nom est évocateur, puisqu'il s'intitule Couscous avec un K et 4 S, s'il vous plaît. Marie-Josée Ordener, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes la cofondatrice et la codirectrice des restaurants Les Grandes Tables à Marseille qui produisent ce festival. Les Grandes Tables étant un lieu de rencontre, de partage culinaire, culturel et de réflexion sur la cuisine et l'alimentation. Bienvenue à vous. Et vous êtes l'autrice de Couscous, alors cette fois avec un C et deux S, c'est-à-dire traditionnellement comme on le connaît hein, dans la cuisine, puisque c'est le titre d'un livre qui est apparu en août 2025 chez First Edition que vous signez avec notre deuxième invité que je salue. Il est en studio avec nous, Emmanuel Perrot. Rodin, bonjour.
Bonjour, Caroline.
Merci beaucoup d'avoir fait le voyage depuis Marseille pour être avec nous. Vous êtes chef nomade, passeur de mots et de mets, organisateur de tables plus extraordinaires les unes que les autres et donc co-auteur de ce livre avec Marie-Josée Ordener. Peut-être je vais commencer avec vous, Marie-Josée Ordener, sur le festival, ce festival Couscous. Bon, évidemment, première question, ce titre un peu biscornu, pourquoi Couscous avec un K et 4 S ?
Alors, on va se partager l'explication avec Emmanuel, parce qu'en fait, il y a 8 ans, quand on a eu ce désir de faire ce festival Couscous, était grâce en fait à la venue de Couscous Mania, donc le groupe de musique. Et à Marseille, on s'est dit, on ne peut pas faire venir ce groupe de musique sans Couscous. Et donc, l'idée a germé comme ça, de dire, on va faire un festival Couscous, le premier festival Couscous. Donc, à l'origine, on est tous partis dans nos savoirs. Alors, un est arrivé en disant, Couscous, c'est écrit quelque part que c'est le son du pilon qui écrase le blé dans un mortier. Et puis ensuite, il y a eu les écrits d'Alphonse Daudet qui écrit couscous comme ça, avec des cas. Et enfin, l'explication beaucoup plus lettrée qu'Emmanuel va vous donner du studio parce qu'on a décidé de se partager le temps de parole.
C'est bien. Bravo.
J'en dis, on est deux, mais on est loin, donc on va quand même essayer de faire une communication. Donc, Emmanuel va vous donner là. Mais c'est vraiment l'assemblage de ces trois choses, de ces trois moments qui sont arrivés et qui a fait qu'on a nommé ce festival Couscous et surtout qu'on l'a écrit comme ça. Et surtout, on a fait des recherches et dans beaucoup de mots dans le monde qui parlent du couscous, le cas revient énormément. Mais Emmanuel va vous donner la version.
Ah ben voilà, en plus, elle fait les transitions, c'est formidable. Marie-Josée
Ordener. Elle est fantastique.
Emmanuel Perrodin.
Oui, et ben ça ancre en fait ce plat dans sa tradition et dans son origine berbère et kabyle en fait, le xx en fait, c'est une racine et c'est assez beau de retrouver dans ce mot-là en fait aussi bien une racine étymologique qu'une racine historique et on ancre vrai, c'est un plat évidemment, c'est un grand plat du Maghreb évidemment et un peu au-delà aussi de l'Afrique de l'Ouest et encore au-delà parce que on peut en trouver si jamais on étend un tout petit peu notre spectre aussi bien au Mashrek qu'en Amérique du Sud. Mais malgré tout, tout vient de Kabylie et tout vient de la tradition berbère et le x. Donc que ce soit le pilon qui pile la graine ou que ce soit la graine qui roule, elle nous rappelle ça.
Mais ça veut dire donc que ce festival, il est dédié au couscous.
Absolument. Il est dédié au couscous et à tout ce qu'il peut au cœur de l'été marseillais signifier comme partage et comme définition. Oui, définition de ce grand plat repas.
Comment vous y participez, vous, Emmanuel Perraudin, comme chef nomade?
Eh bien, il m'est arrivé, lors des premières éditions, de pouvoir cuisiner des couscous, notamment, c'était à Paris, sur les bords du canal Saint-Martin. Et puis là, cette année, nous allons, avec Marie-Josée, occuper les marchés marseillais, dès demain, sur celui de la Pointe-Rouge, et ensuite à Saint-Antoine, le cours Julien, l'Estac, et puis le marché du Vieux-Port dimanche prochain. Et on commencera systématiquement par faire la graine. Parce que ça, c'est quelque chose quand même. C'est au cœur même de ce que peut être ce plat-là. Aujourd'hui, la plupart du temps, on l'achète, évidemment, mais il y a tellement de choses à sortir avec cette graine, et on peut tellement la modifier, la réinventer. C'est assez surprenant de voir comment, au cœur de ce plat qui est millénaire finalement, on peut trouver de la modernité. Enfin, moi, il y a quelques années de ça, j'en avais imaginé un avec de la croûte de comté en roulant la graine avec la croûte de comté. C'était Il y a plein de choses, enfin, tout est imaginable avec cette graine-là.
Je respecte les temps de parole, alors Marie-Josée Ordener, ça va être à vous. Racontez-nous juste en quelques mots, comment se passe le festival, comment vous l'avez pensé avec les grandes tables?
En fait, ce festival est pensé vraiment dans cette idée de partage et d'accueillir d'autres chefs en résidence. Et c'est pour ça que depuis 8 ans, en fait, on est parti avec des chefs marseillais qu'on avait invités sur notre grand toit-terrasse, notre fête sur le toit-terrasse. Donc, on était 20 restaurateurs, amis qui nous avaient suivis dans cette histoire du couscous, plus des chefs invités du Maghreb. La première a été Fatima Al, qui a été vraiment une première chef qui a inauguré ce festival de façon magistrale. Je tiens à la saluer aujourd'hui. Et puis, petit à petit, depuis 8 ans, en fait, on est monté comme ça, et on a toujours travaillé avec des chefs invités et du Maghreb, mais du monde, c'est-à-dire que autour du piment, la Colombie est arrivée. Autour de là, cette année, c'est le pois chiche avec des chefs brésiliens qui sont invités, mais aussi de la Méditerranée. Et au fur et à mesure des années, nous sommes passés comme ça de maintenant, il y a 200 restaurants à Marseille qui font du couscous. Sur ce temps-là de 3 jours, on est passé à 17 jours de couscous avec des ateliers. Il y a 20 chefs en résidence qui sont invités. Et surtout, on a fait un partenariat avec, et ça, c'est assez beau par rapport au partage et au bien manger, avec la PHM sur un grand atelier. Ça fait 2 années déjà qu'on travaille avec
les eux. Hôpitaux de Marseille.
Les hôpitaux de Marseille, oui, absolument. C'est-à-dire qu'on a des chefs qui vont et qui préparent le couscous. La première année, on avait demandé aux personnes qui étaient avec des maladies très longues, de nous donner des recettes de couscous. Et c'est les cuisines de la PHM qui avaient cuisiné ces couscous, donc pendant comme ça 3 jours aussi. Et en même temps, l'été marseillais qui est arrivé aussi à rentrer dans ce festival avec une grande fête sur le port, sur la place de la mairie, sur le port. Et surtout, si les commerçants ont été autant impliqués, c'est grâce à la Fédération des commerçants du centre-ville, menée par Marianne Tiberghien. Voilà, donc d'une toute petite chose, on est arrivé à faire un grand rassemblement, mais qui regroupe vraiment des gens qui viennent, vraiment, on peut dire, du monde entier, autour de ce plat qui est le couscous, et des traditions de graines autour du couscous. Donc ça peut être le attéké, ça peut être du maïs, etc. Mais on roule un peu partout, en fait, dans le monde.
Et puis, si vous me le permettez, il y a quelque chose que vous n'avez pas encore dit, et que ça tombe très bien parce que ça me permet de l'annoncer, c'est que dans le cadre de l'été marseillais, il y a aussi le collectif des entreprises d'insertion épices qui travaille avec ce festival pour organiser un partage de cuisiner de quelques 8500 couscous servis dans des espaces publics partie dans toute la ville. Et c'est justement une chef marseillaise particulièrement intéressée par à la fois les serveurs du pourtour de la Méditerranée qui coordonnent ce collectif Épices. Épices, c'est Ensemble pour l'insertion culinaire et sociale. Elle est avec nous au téléphone. Marina Jost, bonjour.
Bonjour.
C'est vous qui réunissez les principales structures d'insertion par la restauration à Marseille avec ce collectif Épices. Quel est le lien entre Épices et le festival Couscous?
Alors, Épices, donc, c'est un collectif de plusieurs structures d'insertion par la restauration qui se sont unies là depuis la fin de l'année 2022, et c'est la troisième année qu'on participe au festival avec la coécriture, la coproduction et la codistribution de plusieurs milliers de couscous, avec une montée en puissance chaque année. Et donc cette année, c'est 8750 couscous qui ont été produits. Ça a été distribué dans plusieurs plusieurs parcs de différents arrondissements de Marseille. Donc d'abord avec des soirées culturelles et culinaires avec des distributions de 500 couscous. Et puis jusqu'au final et à l'apogée de hier soir sur le Vieux-Port avec la distribution de 5000 couscous aux habitants de Marseille.
Est-ce que vous pensez la cuisine comme un moyen de transmission, un moyen d'héritage aussi à travers la cuisine, ce qui fait le lien avec le livre dont nous allons parler dans un instant, Couscous, qui a été coordonné par Marie-Josée Ordener et Emmanuel Perraudin. Vous, Marina Jost, vous coordonnez, vous co-animez aussi des ateliers avec notamment Jonas Parienté, qui est le réalisateur, l'auteur, le concepteur de ces projets fabuleux, Grand Mass Project, qui sont des ateliers de cuisine et de documentaire pour des jeunes de, je sais pas, 9-13 ans, disons, avec leur mère et leur grand-mère. Racontez-nous ça.
Oui, bah, tout à fait. C'est Les Grandes Tables et l'association ICI qui nous ont proposé à Jonas Parienté et le projet Grand Mass Project et moi-même de coécrire une semaine d'atelier culinaire et audiovisuel pour faire se rencontrer plusieurs familles, petits-enfants et grand-mères, et pour valoriser la transmission culinaire mais aussi familiale, intime, qui se passe dans les cuisines. De les valoriser à la fois pendant cette semaine à travers toutes ces rencontres, ces ateliers pendant lesquels on a fait émerger beaucoup de liens, beaucoup de discussions, beaucoup d'interrogations autour de la cuisine et des histoires familiales, et aussi de pouvoir ensuite en garder une trace dans des films réalisés par les enfants eux-mêmes. Donc les enfants étaient accompagnés par Jonas qui est réalisateur à interviewer et filmer leur grand-mère et leur mère en train de filmer une recette familiale.
Et quand on fait se rencontrer différentes générations, voilà ce que ça peut donner.
Bon, alors moi ce que j'aimerais bien, Mamy, c'est que tu nous racontes comment ça se fait que tu es la reine du couscous boulette tunisien.
La reine, non ?
Oui, la reine.
La reine.
Pas la reine. Je suis pas la reine, je sais seulement le faire à la façon tunisienne. Parce que si tu lis là dans ce livre, qui est les recettes, c'est marqué en toutes lettres que le couscous tunisien fait par les juifs, c'est le meilleur. C'est écrit. Tu lis sur la première page du livre et tu trouves ça.
Alors toi, comment t'as appris à faire ce couscous ?
Alors j'ai appris à Sfax, en Tunisie, quand je suis allée habiter pendant 2 ans. Parce que votre grand-père, il avait trouvé un poste de professeur de maths au collège de Sfax, où il est né, où habitait son père. Et que moi, pendant 2 ans, je suis restée à m'occuper d'Hélène, votre maman. Mmh. Donc, qu'est-ce que je faisais ? Je m'embêtais un peu si je travaillais pas ni rien. Donc, mes belles-sœurs étaient là, elles m'ont appris à cuisiner. Et voilà, c'est comme ça que j'ai appris à faire le couscous.
Couscous Boulette, un film de Laure Prota qu'on trouve sur le site Grande Masse Project. Merci à vous, Marina Jost, d'avoir parlé de épices et de ces 8500 couscous cuisinés par ce collectif d'entreprises d'insertion dans le cadre du festival Couscous. Emmanuel Perraudin, c'est un peu à la manière de ce Grande Masse Project, cette idée que la base de la cuisine, c'est la transmission, et qu'en plus, par le couscous, d'ailleurs, comme un peu la rentrée littéraire, c'est une histoire de famille. Beaucoup de familles à la rentrée littéraire, paraît-il.
Oui,
là aussi, donc, le couscous, c'est une histoire de famille, et tout ça, c'est une affaire de transmission. Le sous-titre de votre livre, c'est Couscous, le meilleur, c'est celui de ma mère.
Oui.
Il y a les mères et les pères.
Oui. Mais c'est ça qui est très, très beau derrière ce plat, c'est que il est plein d'une grande fierté, d'une belle fierté, mais qui n'exclut pas les fiertés des autres. Et c'est assez beau de voir comment en fait se rencontrent et se croisent depuis qu'on a fait tourner un peu ce livre-là. On était un peu angoissés à l'idée de... C'est pas rien de s'attaquer à ce genre de plat. Et en fait, tout le monde est attentif finalement aux recettes que les autres peuvent donner justement de couscous. Et ça qui est fascinant.
Parce qu'il y a autant de couscous que de familles.
Ah oui, au moins. Au moins, si c'est pas plus. Si c'est pas plus, par exemple, pour une des recettes qu'on donne dans qu'on propose dans le livre, il y a un couscous sicilien, le couscous à la trapanaise. On a d'abord eu une première version, qui était la version du père. Et puis, le sujet semblait tellement sérieux que finalement, on a eu accès à la version de ma grand-mère. Et c'était assez fascinant. Et c'était, on était assez à peu près le même couscous, mais en plus précis avec la grand-mère. C'était magique, absolument magique.
Marie-José Ordener.
Non, c'est juste que quand vous parlez de un couscous par famille, je voulais juste dire que c'était presque un couscous par personne qui fait le couscous.
Oui, ça donne un certain nombre d'heures.
Dans une famille, on peut avoir... Allô ?
Oui, tout à fait, on vous entend.
Non, et c'est vrai que chaque personne a son propre couscous, et c'est ça qui est absolument passionnant, et c'est quand même un plat qui fait beaucoup parler et qui fait beaucoup rire et qui amène beaucoup d'émotions. En fait, c'est vraiment un plat qui touche toujours les gens parce que ça rappelle toujours quelqu'un. Et c'est toujours quelqu'un qu'on a aimé et qui a fait à manger et qu'on n'arrivera jamais à retrouver le goût de ce couscous qui a été fait parce que c'est un goût d'enfance, parce que plein d'histoires. Mais ce couscous, cette recette est assez exceptionnelle par rapport à ça. C'est forcément le couscous, c'est toujours le meilleur, c'est toujours celui qui est fait par la personne qu'on aime et qui le fait avec amour pour ceux qui sont autour de la table. Je crois que c'est ça qui est assez passionnant sur ce plat.
Il est midi 16, à l'écoute de France Culture, vous écoutez Les Bonnes Choses. Les Bonnes Choses s'intéressent aujourd'hui au couscous comme plat du partage.
1982, papa m'amène à Saint-Tropez, c'est la première fois que je quitte la maison familiale. Il m'amène pour travailler au restaurant Les Mouscardins, 2 étoiles au Michelin. Et au Mouscardin, M. Lyons, qui était en cuisine, nous présente l'équipe. Et à la plonge, il y avait un Kabyle, un garçon d'une gentillesse extrême et qui voit le petit Béarnais qui arrive dans ce monde un peu, voilà, où ça bougeait énormément. Et le premier week-end, il me dit, allez, viens à la maison, je fais un repas, tu viens venir manger en famille, reste pas tout seul, comme je connaissais personne. Et j'arrive chez Ahmed, je pousse la porte, une odeur étrangère. C'était un mélange de tomates, d'épices. Je sentais l'agneau, mais assez puissant. C'était très étonnant. Et j'arrive sur la table familiale, une grande table, où il dépose un plat, totalement inconnu pour moi, un couscous. Et ça a été un moment de partage, de convivialité. Et surtout, pour moi, le petit cuisinier qui ne connaissait que la cuisine du Sud-Ouest, qui ne connaissait que le pot-au-feu, le magret, le confit, une découverte extraordinaire.
C'était le témoignage du chef Yves Candebord, un extrait d'une capsule vidéo du plus loin que je me souvienne, réalisée par Les Grandes Tables et vous, Marie-José Ordener. Mais Emmanuel Perraudin, dans votre préface au livre Couscous, le meilleur c'est celui de ma mère, vous écrivez que le couscous incarne à la fois la mémoire d'un patrimoine culinaire ancestral et la vitalité des échanges culturels contemporains. On en a la preuve vivante par ce témoignage d'Yves Candebord. C'est aussi ce qui explique sa popularité, d'une certaine façon.
Oui. Clairement, c'est son côté aussi, c'est cet aspect protéiforme. Une des choses qu'en travaillant sur le livre, je me suis plongé dans Urbain Dubois, qui est ce grand cuisinier de la fin du 19e siècle, qu'il ne faut jamais oublier, qui a commis ce livre impeccable qui s'appelle Cuisine de tous les pays. Il y présente le couscous dans la catégorie des soupes, entre la soupe aux morilles, que plus personne ne fait, et la julienne à la faubonne, qu'il présente comme un monument national français de l'époque. La julienne à la faubonne, c'est un potage de haricots blancs lié au lait et dans lequel on rajoute une gilaine de légumes. Et évidemment, ce monument national n'existe quasiment plus, n'est quasiment plus cuisiné. En revanche, le couscous, lui, est bien là. Il a fait souche en suivant aussi l'histoire du 20e siècle, hein. C'est-à-dire que c'est avant tout, évidemment, que c'est le rapport que nous entretenons avec les pays du Maghreb. C'est aussi un très beau cadeau des pieds noirs à la France dans les années 50-60. C'est aussi un cadeau des populations immigrées et d'origine immigrée à la France, et de voir comment, en fait, autour de ce plat peut se faire s'imaginer civilisation. Il y a quelque chose d'extrêmement, extrêmement stimulant.
Et comme vous êtes historien, je vais remonter quand même aussi beaucoup dans le temps. Comme vous le faites d'ailleurs dans ce livre, vous disiez tout à l'heure que les origines du couscous, c'est évidemment la culture berbère, la culture kabyle. Mais la diffusion a été relativement rapide, puisque Rabelais en parle dès 1532, le couscoussou.
Oui.
Et vous citez aussi une recette d'un Italien qui est des plus grands, enfin en tout cas c'est un des plus grands livres de cuisine de la Renaissance, Opéra de Bartolomeo Scappi, et sa recette c'est le succussou, S-U-C-U-2-S-U, que vous mettez dans le livre, c'est extraordinaire.
La recette est absolument extraordinaire. C'est la première fois qu'elle est traduite en français. On est très fiers de ça.
Bravo.
Ce livre est vraiment impeccable. Vraiment, vraiment. Il y a 1000 recettes différentes. Je me permets juste une petite parenthèse. Le premier livre, c'est un livre que tout le monde devrait lire, en fait. C'est un livre de conseils entre un cuisinier et son apprenti. C'est fascinant. Et ensuite, les 4 autres livres sont 1000 recettes réparties en 4 thématiques.
Ça, c'est opéra, donc.
Ouais, des opéras. Et dans ce livre, et dans un des livres, se trouve cette recette de soukoussou, et qui est, alors pour le coup, c'est vraiment une interprétation médiévale du couscous, c'est-à-dire que c'est de la graine avec de la viande cuite. D'ailleurs, c'est la seule recette dans laquelle on propose du cochon dans ce livre-là. Donc il y a du cervelas, du chapon, de l'agneau, recouvert à nouveau encore de graines de couscous, et puis du bouillon gras, plus du parmesan, plus du sucre, plus de la cannelle,
là.
Et on laisse tout ça un tout petit peu reposer. Et le résultat est très, très, très surprenant. Et à le lire comme ça, on se dit non, ça ne va pas être possible. Et en fait, c'est très bon.
C'est une des 50 oui. recettes collectées qui sont publiées dans ce livre formidable. Couscous, Marie-Josée Ordener, Emmanuel Perraudin. Vous avez donc collecté, Marie-Josée Ordener, des recettes de tout un chacun. Il y a des gens que vous connaissez. Comment vous procédez?
Oui, on connaît toutes les personnes qui sont là, on les connaît parce que c'était plus facile. Et puis c'est surtout, moi je me suis appuyée sur les 50 petites capsules qu'on avait fait donc en 2020 avec du temps de Covid. Il s'appelait donc du plus loin que je me souvienne le couscous. Et c'est vrai qu'on est retourné voir, enfin je suis retournée moi voir ces personnes-là. Emmanuel, lui, était beaucoup plus partout dans la France. Mais voilà, et puis on travaille aussi avec des personnes puisque nous sommes aussi un restaurant et qui accueillons pas mal de personnes, donc c'est des gens qu'on connaît.
Bon alors, il y a des couscous végétariens, des couscous de la terre, des couscous de la mer, des couscous salés, sucrés, et des couscous étranges. Par exemple,
absolument.
Le couscous au pain rassis, 10 couscous des radins, voilà. Marie-Josée, que vous
et
avez...
Celui que je préfère.
Vous préférez, et vous nous avez offert la recette qu'on met sur le site des Bonnes Choses. Votre préféré, Emmanuel Perraudin, c'est le couscous boulette à la cacahuète de Michel Perraudin, votre frère?
Alors, celle-là, elle est vraiment très très bien, c'est vrai. Mais j'ai une affection particulière pour ce couscous des radins, et puis aussi pour le couscous Kémia, qui est offert par Matane Kugel, et qui est, plein de petites salades autour de cette graine parfaitement réalisée. Et
c'est très important, vous dites l'un des gestes les plus importants, c'est de savoir rouler la graine.
Oui.
Mais comment fait-on si on n'a pas eu la chance d'avoir dans sa famille quelqu'un qui savait le faire et qui nous a appris? On lit le livre?
Alors, oui, alors déjà on peut lire le livre vraiment pour s'exercer dans un temps d'eux. Mais non, mais il y a maintenant, aujourd'hui, on trouve des très bonnes graines de couscous.
Quelle semoule faut-il choisir?
Alors, moyenne.
D'accord, c'est simple.
Et puis ensuite vous allez dans une échoppe bio. La plupart du temps, il y a des choses de très très bonnes, de très très belles, de très très belle qualité.
Cher Maurice Sacco, qui nous rejoignait pour la chronique de fin d'émission cette saison. Vous aimez le couscous?
Ah, j'adore ça, moi.
Pareil. Vous en faites?
J'en fais très peu. Je préfère le manger chez les autres, après.
Vous savez de quoi faire.
Non, j'avais beaucoup d'amis algériens, marocains et autres, et c'était le plat que j'allais manger chez mes potes, moi. Donc, c'était vraiment un plat que j'allais manger chez les autres.
Vous avez des origines par vos parents maliennes et sénégalaises, ouais. Me semble-t-il. Est-ce qu'il y a l'équivalent à une variante du couscous?
Ouais, on peut citer même deux variantes. Au Mali, on va avoir ce qu'on appelle, nous, le bassi. On peut aussi l'appeler le bassi salté. C'est fait avec des graines, pas forcément de la semoule d'ailleurs. On peut le faire avec du mil ou du sorgho des fois. Et on va le manger avec la viande et une sauce tomate très réduite. Et il y en a un qui ressemble vraiment au couscous, pour le coup, au Sénégal, qui s'appelle le tiré. Et on va avoir plus de fruits de mer et ainsi de suite. Et je crois qu'il a même gagné un championnat du monde du couscous il y a quelques années. Donc c'est un très très beau couscous qu'on retrouve au Sénégal.
Et chez vous, le plat qu'on se transmet de génération en génération et que vous faites encore aujourd'hui, s'il y en a un?
Moi, je dirais le mafé que je fais encore aujourd'hui. Donc,
Je pensais que c'était l'omelette, puisque vous avez...
Non, moi, c'est le mafé. L'omelette, c'est pour tout le monde.
Bon, ça va être l'heure de votre chronique. Votre première chronique de Maurice Sacco. Vous croquez pas dans une pomme aujourd'hui, cher Maurice?
Non, je croque pas dans une pomme, mais j'ai des omelettes. Et donc, j'avais envie de vous parler de l'omelette cette semaine. Donc, parce que pour moi, c'est de la recette humble et technique par excellence. Et moi, je sais de quoi je vous parle parce que lors de mes premières années en tant que commis, j'ai fait quelques omelettes au service petit déjeuner. Et je sais que pour réussir une omelette parfaite, ça demande un bon coup de main et une petite dose de sensibilité. Mais j'avais aussi envie de faire un petit tour du monde de l'omelette. La paternité de l'omelette, elle se dispute entre la Perse antique où on retrouve la première trace écrite de l'utilisation d'une poêle en fonte pour cuire les œufs et l'Europe occidentale. En Europe, le plus grand représentant de l'omelette, c'est autre que nous, la France. C'est littéralement un des marqueurs de notre gastronomie à l'international, dans sa version domestique ou en brasserie. On peut la manger nature, au fromage, champignons ou encore à la truffe pour les plus gourmets d'entre nous. Mais surtout, une chose très importante, baveuse de préférence. On la retrouve dans sa version la plus célèbre chez la mère Poulard. Certains peuvent traverser le globe pour la goûter. En Europe, on retrouve aussi d'autres variantes de l'omelette avec la célèbre tortilla espagnole ou encore la frittata italienne. Au Moyen-Orient, on retrouve au Liban, en Égypte ou en Syrie, le léger. Ça ressemble un peu à une tortilla, mais avec des épices en plus. Et au Japon, on a le tamagoyaki. Donc c'est une omelette qui va être roulée par couches successives. Et on va l'assaisonner avec du soja ou du mirin. Ou bien on peut faire un tamagoyaki au dashi. Et à ce moment-là, ça devient une autre recette encore.
On nous en parlera une autre fois.
On peut en parler encore. Et donc cette omelette, une fois qu'elle est roulée et cuite à plat, on vient la découper comme un maki. Et puis ça rend ça beaucoup plus simple à manger avec des baguettes. Mais au Japon, moi, il y a une recette qui me fascine, c'est l'omurice. L'omurice, c'est une des recettes emblématiques et les plus spectaculaires de la cuisine Yoshoku, la nouvelle cuisine japonaise. Et donc, c'est une omelette qui ressemble à la base à notre omelette japonaise. Donc c'est une omelette qui va être roulée parfaitement, mais vraiment, vraiment parfaitement à la japonaise.
À la japonaise, donc.
Ouais, vraiment. Et ensuite, elle va être servie baveuse, mais à souhait. Et ça, c'est un détail qui est très important pour la suite de la recette. Cette omelette, elle est déposée sur un lit de riz, donc c'est un riz de la veille de préférence, qu'on va venir assaisonner avec de l'oignon, du ketchup et un petit peu de saucisse. Le tout, c'est accompagné d'une sauce brune, et puis l'omelette, elle est fendue en deux devant le client au dernier moment, donc ça vient faire un petit peu, hop, comme une petite nappe qui vient recouvrir le riz. Et c'est une recette qui est surtout vue comme un plat pour les enfants. Mais moi, je suis un grand enfant, donc je résiste jamais face à cette recette. Et donc, l'idée, c'est de vous partager un tips pour rendre votre omurice un tout petit peu différent. Et donc, l'omelette, je vais vous proposer de l'assaisonner avec un petit peu de cumin avant cuisson. Parce que moi, j'adore l'omelette au cumin marocaine ou juste les œufs plats au cumin. Je trouve que ça amène toujours quelque chose de plus à l'œuf. Et dans le riz, à la place du ketchup, on va venir mettre une concassée de tomates à l'origan. Et tout de suite, l'omurice, il va avoir un goût un peu qui va un peu plus vers la Méditerranée, on va dire. Et surtout, faut pas me demander la recette, parce que moi, j'en ai qu'une seule.
Ah bah non.
Ah bah si. C'est d'utiliser vos cinq sens. Trois péchés capitaux, au choix. Hein. Vous n'êtes pas obligé de choisir les mêmes que moi, et de l'amour, bien sûr.
Merci Maurice Sacco. La chronique, le dialogue des cuisines de Maurice Sacco à retrouver sur notre page internet, sur l'application Radio France et sur les réseaux sociaux. Un grand merci Emmanuel Perraudin, Marie-Josée Ordener. Un mot sur l'omelette?
Non, mais oui, c'est un grand marqueur de la cuisine française, c'est certain. Il faut qu'elle soit baveuse, c'est certain aussi.
Absolument.
Et ce coup de poignet à la toute fin pour faire en sorte qu'elle roule bien dans la poêle, ça c'est vraiment magique.
Couscous, point d'exclamation, le meilleur c'est celui de ma mère. Un livre paru aux éditions First avec les photos de Maki Manoukian, très important. À l'occasion du festival Couscous, une carriole itinérante est présente sur les marchés de Marseille avec des recettes du livre et le livre et les auteurs du livre. Le festival Couscous à Marseille, c'est jusqu'au 7 septembre. Tous les renseignements seront sur notre page Les Bonnes Choses sur franceculture.fr. Les Bonnes Choses qui s'écoutent aussi quand vous le voulez sur franceculture.fr et l'application Radio France. Une émission pensée et préparée désormais avec l'aide de Léa Varin, qui pense évidemment que le couscous de son père tunisien, c'est le meilleur. Réalisé par Jean-Christophe Francis, aujourd'hui à la mise en onde, c'était Paul Geek. Nous vous souhaitons une excellente journée à l'écoute de France Culture.